Merci d'écouter RFI, il est 18h ici à Paris, une heure de moins en temps universel.
Simon Bourtembourg.
Une immense vague dans les rues d'Istanbul. Les drapeaux turcs flottent dans toute la ville où les manifestants réclament la libération de l'opposant Ekrem İmamoğlu. Malgré la répression du pouvoir, des centaines de milliers de manifestants se sont rassemblés à l'appel de l'opposition. À la une également, la désolation en Birmanie, frappée par un séisme d'une intensité inédite pour le pays. La terre a tremblé jusqu'en Chine. La Birmanie déplore à ce stade plus de 1500 morts alors que l'aide internationale commence à arriver. À Gaza, 9 secouristes sont toujours portés disparus après des tirs israéliens la semaine dernière sur des ambulances. Les véhicules étaient suspects, assure l'État hébreu. Le Hamas, de son côté, dénonce un crime de guerre. Et puis, il est présent dans certaines eaux minérales ou dans des dentifrices. Le fluor est plus décrié que jamais aux États-Unis, sur recommandation du ministre de la Santé. Nous le verrons, certains États commencent même à l'interdire partiellement. La répression qui s'abat sur les protestataires ne les arrête pas. Des centaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues d'Istanbul en Turquie. Une gigantesque mobilisation à l'appel du principal parti d'opposition, le CHP, d'Ekrem İmamoğlu, incarcéré pour corruption. Daniel Valo, la foule s'est retrouvée à la mi-journée pour demander la libération du maire d'Istanbul et pour dénoncer la dérive autoritaire du président Erdogan.
Le droit, la loi, la justice, voilà ce que réclament inlassablement les partisans du maire d'Istanbul. Drapeau turc sur les épaules, deux traits rouges et blancs sur les joues, Ergül est venu pour défendre Ekrem İmamoğlu.
Il n'est pas corrompu, et ses accusations, c'est évidemment n'importe quoi. La vérité, c'est que le pouvoir a peur de lui. Si İmamoğlu pouvait se présenter aux élections, il l'emporterait largement.
Dans la foule, on prend fait et cause pour le maire d'Istanbul et l'on s'inquiète de la dérive autoritaire du président turc Recep Tayyip Erdogan.
Ce n'est que le début. Il ne peut pas y avoir de justice dans un pays gouverné par un seul homme. J'ai peur que la Turquie ne devienne une dictature. Et je n'ai pas peur pour moi, mais surtout pour mes enfants.
Pour les manifestants anti-Erdogan, la question se pose à présent de la suite à donner à leur mouvement. Car il sera difficile de maintenir la mobilisation alors que vont débuter ce dimanche les congés de la fin du Ramadan. Bertrand Eclair, Daniel Valo, Istanbul RFI.
Et pour ce rassemblement, le Parti républicain du peuple à l'origine de l'événement avance le chiffre de 2 200 000 manifestants. C'est un séisme d'une intensité inédite qui a frappé la Birmanie. Le dernier bilan fait lui état de plus de 1600 morts et 3400 blessés. Chaos et désolation frappent notamment la région de Mandalay, épicentre du séisme. Et c'est donc dans un paysage apocalyptique que les secours sont à pied d'œuvre pour retrouver des survivants. Et Carole Izou, l'aide internationale commence à s'organiser.
Ce sont d'abord les puissances asiatiques qui ont répondu à cet appel inédit à l'aide internationale lancée par le chef de la junte militaire, le général Min Aung Hlaing, au premier rang desquels on trouve bien sûr la Chine, qui promet une aide de 12,7 milliards d'euros et a déjà envoyé sur place une équipe de 82 secouristes. L'Inde a elle aussi lancé son opération Brahma en expédiant plusieurs avions chargés de 15 tonnes de matériel de première nécessité, couvertures, produits d'hygiène, tentes, nourriture. Assez loin derrière, l'Union européenne s'engage sur 2,5 millions d'euros d'aide d'urgence. Donald Trump assure que les États-Unis vont aider car la situation est terrible, sans pour l'instant s'engager sur un montant précis, alors que les effets des coupes budgétaires de l'aide humanitaire en Birmanie commençaient déjà à se faire sentir avant le tremblement de terre. Des annonces qui reflètent les équilibres géopolitiques de la région où la Chine et l'Inde s'affirment désormais comme les puissances dominantes.
Carole Izou du service international de RFI. En Guinée, Moussa Dadis Camara est bien sorti hier soir de la maison centrale de Conakry. L'information est confirmée cet après-midi par son avocat. L'ex-chef de la junte n'est cependant pas encore apparu publiquement depuis la grâce qui lui a été accordée par le chef de la junte actuel, le général Mamadou Mahdi Doumbouya. Moussa Dadis Camara fut lui à la tête de la junte. Il a dirigé le pays entre 2008 et 2009 et condamné l'an passé pour crime contre l'humanité pour avoir commandité le massacre d'opposants à l'époque dans le stade de Conakry. Sans surprise, sa grâce est accueillie dans la joie et le soulagement par ses partisans et avec consternation par l'opposition et une partie de la société civile. Au Gabon, le lancement aujourd'hui de la campagne électorale avec un grand meeting ce samedi, celui de Brice Clotaire-Oligui-Nguema. L'événement a rassemblé des milliers de personnes au stade de l'Amitié au nord de la capitale gabonaise. Le chef de la transition est l'un des 8 candidats en lice pour la présidentielle du 12 avril. Lors des 2 semaines de campagne qui s'ouvrent, les adversaires de Oligui-Nguema vont eux tenter de sortir de l'ombre.
Radio France Internationale.
Après 1 000 000 de morts depuis la rupture de la trêve dans la bande de Gaza, c'est le bilan donné aujourd'hui par le ministère de la Santé du Hamas, et ce donc depuis la reprise des bombardements israéliens, c'était il y a 10 jours. Le mouvement islamiste palestinien qui dénonce par ailleurs un crime de guerre alors qu'Israël reconnaît avoir tiré sur des ambulances dans la bande de Gaza. Amira Sulem, 9 personnes sont d'ailleurs toujours portées disparues.
Où sont-ils? C'est la question que pose la défense civile et le Croissant Rouge palestinien, alors que 14 secouristes manquent à l'appel. En opération dans la banlieue de Rafah dimanche dernier, ils n'ont plus donné signe de vie depuis près d'une semaine. Hier, la défense civile de Gaza a dit avoir retrouvé le corps du chef de son équipe déployé sur place. Quelques heures plus tard, l'armée israélienne a reconnu avoir tiré sur des ambulances dimanche dernier. Dans un communiqué, l'armée précise qu'elle ciblait ce jour-là des véhicules occupés, je cite, par des terroristes du Hamas. Une opération suivie d'autres frappes contre des véhicules jugés suspects dans des ambulances et des camions de pompiers. Israël accuse les combattants du Hamas d'utiliser les ambulances à des fins militaires. Le Hamas, de son côté, a dénoncé ce qu'il appelle un massacre brutal et délibéré qu'il assimile à un crime de guerre. Ce matin, le Croissant Rouge dit être toujours interdit de mener des opérations de recherche des équipes médicales disparues. Amira Sulem, Ramallah. RFI.
Et ce samedi, le Hamas a par ailleurs diffusé une nouvelle vidéo d'un otage israélien à Gaza. La vidéo, qui dure plus de 3 minutes et dont la date d'enregistrement ne peut être vérifiée, montre un otage s'exprimant en hébreu et réclamant à être libéré. En Ukraine, Moscou revendique la prise de 2 villages dans le sud et l'est du pays. Une avancée sur le front donc, alors que les efforts patinent en vue d'un cessez-le-feu global voulu par le président américain Donald Trump. Kiev et Moscou s'accusent par ailleurs mutuellement de viser des sites énergétiques. La réplique du Danemark sur l'inflammable dossier du Groenland. La diplomatie danoise déplore la virulence des critiques du vice-président américain sur l'inaction supposée sur ce territoire autonome. Lors d'un discours sur l'unique base militaire américaine au Groenland, J.D. Vance a estimé que le Danemark n'a pas fait du bon travail sur place. C'est le premier État américain à le faire. L'Utah interdit la fluoration de l'eau potable. La loi signée cette semaine prendra effet le 7 mai prochain et d'autres États républicains comme le Dakota du Nord ou le Tennessee envisagent de prendre le même chemin. Cette initiative, elle est portée par des élus républicains qui sont eux-mêmes soutenus par Robert Kennedy Jr. Le ministre de la Santé de Donald Trump est ouvertement opposé au fluor et ce depuis plusieurs années. Mais alors, Pauline Glaise, à quoi sert la fluoration de l'eau?
Eh bien, l'eau du robinet de près des 2/3 des Américains contient cet additif. Les États-Unis ne sont d'ailleurs pas une exception. La pratique a cours dans plusieurs autres pays. L'objectif, Simon, c'est de réduire les risques de caries. Le fluor restaure les minéraux perdus par l'acide et limite les effets néfastes des bactéries. D'ailleurs, beaucoup de dentifrices en contiennent. Et si l'eau en est naturellement pourvue à des concentrations variables, eh bien, Robert Kennedy Jr. a fait de l'ajout de fluorure dans l'eau du robinet en épouvantail. Dans un tweet de novembre dernier, il l'accuse d'être associé à de multiples maux, comme le cancer des os ou des pertes de QI. Seulement voilà, selon des spécialistes, quand il est consommé à des doses adéquates, il ne représenterait pas de danger pour la santé. L'Association américaine pour le cancer invite ouverte à poursuivre les recherches, mais note qu'à ce jour, les preuves ne sont pas assez solides. Une récente étude évoque aussi bel et bien une association statistiquement significative avec l'exposition aux fluorures et des QI moins élevés chez les enfants. Mais l'association est faite pour une quantité supérieure à 1,5 mg par litre d'eau. C'est le double de la limite recommandée aux États-Unis.
Merci beaucoup Pauline Glaise. Allez, un mot de football pour refermer ce journal avec la Ligue 1. 3 matchs au programme ce soir. Reims accueille en ce moment l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille qui est mené 1-0. Nous en sommes à la mi-temps. Dans une heure, Saint-Etienne affrontera de son côté le PSG. RFI, 18h10, ici à Paris. C'est la fin de cette édition. Restez à l'écoute de la Radio du Monde.